En réalité, dans l'Évangile, Jésus ne nous dit pas tellement qui est Dieu. Il préfère en général dire comment il voit Dieu à travers de curieuses petites histoires ou même presque des petites énigmes. Mais il y a quand même un passage où Jésus nous parle de Dieu. C'est dans cette prière qui a été évoquée dimanche dernier par les pasteurs Gilles Castelnau et Laurent Gagnebin, le « Notre Père » que nous connaissons tous par cœur. Dans cette prière, Jésus nous parle de Dieu. Il nous en dit exactement deux mots. Et il y a là l'essentiel, toute une somme théologique. Voilà ce que Jésus nous dit pour nous présenter Dieu. Il nous propose de l'appeler « Notre Père qui est aux cieux ». Alors en hébreu, cela fait bien deux mots et non pas six comme en français. « Abinou », le premier mot, et « Sheba Shamaim », le deuxième mot. Alors je vous propose d'abord d'entendre dans l'Évangile selon Matthieu, eh bien, le début donc de cet enseignement à la prière que nous propose Jésus. Matthieu 6, à partir du verset 5. « Lorsque vous priez, nous dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour bien se montrer aux yeux des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Ensuite, je voudrais vous lire dans le livre des psaumes, le psaume 121, qui lui aussi nous propose une conception de Dieu qui me semble bien aller avec ce que nous propose Jésus-Christ. Psaume des montées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Enfin, je voudrais vous lire un troisième témoignage sur Dieu. C'est celui de l'apôtre Paul quand il prononce cette prédication sur l'agora d'Athènes. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit ces paroles. « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et l'être. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race même de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à changer, parce qu'il a fixé un jour où il va gouverner le monde selon sa justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puisqu'il est question de Dieu comme Père et de le prier, je vous propose de chanter ce bon vieux cantique, j'allais dire, le cantique 250, « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi », les trois premières strophes de ce cantique 250 dans le recueil bleu « Louange et prière ». Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Une parole unique, inexprimable, vivante, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères et sœurs. Pour nous présenter Dieu, Jésus nous propose donc ces deux mots, « Notre Père qui es aux cieux ». La première chose que l'on doit remarquer, c'est que cette phrase, courte phrase, est une prière. Et je crois que c'est ce que l'on peut dire à quelqu'un qui ne sait absolument pas qui est Dieu et qui se poserait des questions, c'est qu'il est possible de prier Dieu, que l'on peut essayer de s'adresser à lui avant même de savoir qui il est, et avant même de savoir s'il existe. Dieu est quelqu'un à qui l'on peut parler. Je crois que c'est le premier point important, essentiel, que nous propose ici Jésus. C'est-à-dire que Dieu n'est pas pour Jésus seulement une idée abstraite. On ne parle pas à une idée abstraite. Il n'est pas seulement une force qui fait évoluer la nature. On s'ouvre à une force. Il est une personne avec qui l'on peut entrer en relation. C'est pourquoi Jésus peut se contenter de nous dire deux mots sur Dieu. Il définit ainsi une base et pour le reste, il nous propose de faire nous-mêmes l'expérience de Dieu, de s'adresser à lui comme on s'adresse à quelqu'un d'aussi concret et d'aussi proche que ses propres parents. Alors il est possible de comprendre cela de différentes façons, et de le vivre finalement à différents niveaux. Et ici, dans l'oratoire, nous sommes habitués à accueillir, accepter, reconnaître la façon que chacun a de concevoir Dieu. C'est déjà bien de s'intéresser à Dieu, même si l'on n'est pas certain qu'il existe comme une personne individuelle. C'est déjà bien de chercher quelle est la définition de Dieu qui nous semblerait la meilleure. Car on travaille alors à définir, à chercher ce que l'on considère comme l'idéal, ce vers quoi nous aimerions aller pour devenir meilleurs, pour nous élever dans l'être. Cette idée est contenue dans ce que Jésus nous propose ici en considérant Dieu comme notre Père, c'est-à-dire comme une version pleinement développée de l'enfant que nous sommes aujourd'hui. Alors il est utile d'avoir ainsi une certaine conception de l'idéal, et je crois qu'il est utile, qu'il est bon, qu'il est cohérent de replacer chaque jour sa vie face à son idéal, dans une sorte finalement de prière personnelle ou d'auto-analyse où l'on replace ce que l'on a vécu, ce que l'on veut vivre face à l'idéal qu'on a choisi. Alors c'est donc déjà bien, je crois, de chercher Dieu ainsi. Mais Jésus nous propose d'aller plus loin, d'aller à un autre niveau. Alors c'est déjà pas mal non plus de considérer Dieu comme une force ou une dynamique d'évolution pour l'univers et pour nous-mêmes. Cette idée est assez à la mode aujourd'hui, peut-être sous l'influence des spiritualités orientales. Et dans un sens, ce n'est pas faux, à mon avis. Dieu est effectivement une force, une dynamique d'évolution dans l'univers. Et cette idée est contenue, je crois, dans la notion de Père que nous propose ici Jésus, ou ce que nous propose aussi l'apôtre Paul dans sa prédication aux 13 philosophes athéniens, quand il dit qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et que nous sommes de sa descendance. C'est déjà bien de s'ouvrir, je crois, oui, à cette force, cette dynamique d'évolution, et c'est pas idiot de l'appeler Dieu, car en l'appelant ainsi, nous nous mettons en relation, en dialogue avec les générations précédentes, avec les témoignages qui nous sont proposés dans la Bible et dans, je dirais, les millions, milliards de pages de théologie. Ce n'est pas faux, et je crois que c'est un peu, finalement, je crois, ce que nous propose aussi Jésus ici. C'est intéressant de s'ouvrir à cette force que l'on peut appeler Dieu, de considérer le monde comme étant en évolution, de se sentir concerné, finalement, par ce mouvement d'évolution, et même de se sentir partie prenante de ce mouvement d'évolution, en étant nous-mêmes, à notre mesure, source d'évolution positive autour de nous. C'est donc déjà bien, je crois, de concevoir ainsi Dieu comme un idéal ou comme une source d'évolution. Mais Jésus nous propose, à mon avis, d'aller plus loin, d'aller à un troisième stade. Il considère Dieu comme une personne à laquelle nous pouvons nous adresser. Une vraie personne qui existe, qui nous écoute, qui réagit à ce que nous lui disons, qui réagit avec sa personnalité, avec sa propre créativité. Jésus était, à mon avis, au moins aussi cultivé que Paul, non seulement en exégèse, je dirais, du Premier Testament, mais également en philosophie grecque, et il aurait pu, comme lui, parler de Dieu en termes théologiques, en termes philosophiques, ce qui nous aurait prodigieusement intéressés s'il nous avait proposé, oui, une bonne somme théologique, comme Thomas d'Aquin a pu en produire, par exemple, ou comme Paul dans l'Épître aux Romains, je ne sais pas. Mais Jésus finalement choisit de frustrer cette attente gourmande que nous avons de bonne théologie. Ce sera à nous d'élaborer et de réformer sans cesse l'expression de notre pensée de Dieu et même de notre expérience de Dieu. Jésus nous propose seulement ce point de départ et cette piste de recherche qu'il nous propose d'explorer personnellement. Dieu est une personne à qui l'on peut s'adresser comme étant notre Père qui est dans les cieux. Jésus nous propose de nous retirer en nous-mêmes, de nous isoler, de le prier dans le secret de notre chambre, de notre tête, de notre cœur. Alors inutile de courir à Jérusalem ou au mont Garizim, nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean à la Samaritaine. Il n'est pas non plus à Genève ou à la Mecque ou plus qu'à Rome. Il n'est pas plus au temple de Jérusalem que dans les eaux du Gange. De toute façon, nous dit Jésus, il est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est dans une autre dimension. Et pourtant, il est si proche que toute personne qui s'isole pour entrer en elle-même est entendue par Dieu. Dieu est là, dans le secret, auprès d'elle. Même si notre prière n'était qu'un soupir inexprimable, nous dit Paul dans la lettre aux Romains, Dieu l'entend et la comprend et l'accueille. Dieu est comme le ciel, il est comme l'air qui nous est offert, qui est offert à chacun, où qu'il soit, quel qu'il soit, pour que nous l'inspirions, pour qu'il nourrisse notre sang, notre vie, notre mouvement et notre être. Dans ce simple mot de Père, Jésus nous dit déjà, en premier lieu, je crois, la bienveillance radicale de Dieu pour chacun de nous. Il n'est pas comme un empereur qui honore ou qui jette en prison qui il veut, comme il veut, selon son bon plaisir. Mais Dieu aime chacun de ses enfants comme un père idéal le ferait. Il aime donc, par sa propre nature, il aime viscéralement chacun de ses enfants, comme si chacun d'eux était irremplaçable, car il l'est aux yeux des parents, bien sûr. Il nourrit son enfant, il l'éduque, il lui apprend la vie, il le prépare à travailler avec lui et même à prendre sa succession. Comme Joseph a transmis à Jésus son métier de charpentier, comme Dieu a transmis à Jésus-Christ son métier de sauveur. Dans ce nom de Père que Jésus nous propose ici pour que nous appelions Dieu, il y a une insistance donc sur la grâce de Dieu. Cet amour, je dirais, qui n'a comme seule source la nature même de Dieu. Nous sommes son enfant, c'est ainsi. Et rien ni personne ne peut changer cet état de fait, pas même Dieu s'il le voulait. Mais ce qu'il veut, c'est d'être sans cesse plus notre Père. Car contrairement à nos parents qui nous ont engendrés un jour, ce Père que nous avons dans les cieux veut nous engendrer chaque jour un peu plus. Et c'est ce qu'il advient quand nous nous tournons vers lui dans l'espérance qu'il nous donne d'être un peu plus à son image. C'est pourquoi la connaissance de Dieu que nous propose Jésus n'est pas seulement un savoir sur Dieu, mais une expérience de Dieu qu'il nous propose de faire. Celle qui consiste à prier Dieu et à nous laisser, jour après jour, engendrés par lui et élevés comme un père ou une mère le font pour ses enfants. Dieu est notre Père, nous dit Jésus, et cela nous le rend infiniment proche, du même sang que nous, de la même race que nous, comme le dit Paul. Comme un papa et son fils se ressemblent, le papa ayant simplement quelques années d'avance sur son fils. En ce sens, Dieu est ainsi ce que nous serons quand nous aurons un peu plus grandi, quand nous aurons un peu plus vécu. Mais après avoir dit que Dieu est notre Père, Jésus précise aussitôt qu'il est celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est plus haut que nous ne le serons jamais. Il est dans une autre dimension. Comme Père, Dieu est très semblable à nous, et comme celui qui est dans les cieux, il est seul de son espèce. Il est au-dessus de nous, au-dessus de tout ce qui existe, au point même qu'il est difficile de dire s'il existe, car il existe autrement, d'une façon unique en son genre. Cette tension entre la proximité de Dieu et l'infini, la différence radicale qu'est Dieu, cette tension est fondamentale, je crois, dans l'Évangile. Dieu est à la fois le Créateur du ciel et de la terre, et il est celui qui accompagne individuellement la fourmi que nous sommes. Il est cet infini qui est une source inimaginable, indescriptible de la vie, du mouvement et de l'être. Mais il est aussi celui dont nous sommes l'image, celui qui nous engendre, c'est-à-dire littéralement qui nous crée comme étant du même genre que lui, source nous-mêmes de vie, de mouvement et d'être. Il est donc à la fois comme une part de nous-mêmes et quelque chose de radicalement différent de tout ce que l'on peut imaginer. Alors nous, protestants, nous insistons souvent sur le fait que Dieu est le tout autre. Et pour le respecter, respecter cette altérité de Dieu, nous faisons sans cesse attention à bien relativiser la portée de notre théologie. Oui, tout ce que l'on peut dire sur Dieu est dans un certain sens un blasphème. Et nous essayons de relativiser la portée de nos sacrements, de notre culte. Bien sûr, le baptême est important, il est signe de la grâce de Dieu, mais de toute façon, la grâce de Dieu, elle est donnée depuis toujours, de toute éternité. Alors nous relativisons ainsi toujours notre théologie, nos rites, nos sacrements, notre culte. Mais attention, c'est bien, mais à pousser cela trop loin, nous oublions qu'en Christ, Dieu se montre comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire que Dieu s'incarne dans notre monde, qu'il agit pour nous et en nous, qu'il n'est pas seulement le Dieu tout autre, mais qu'il est aussi l'infiniment proche, plus proche de nous que nous ne le sommes nous-mêmes finalement. Il faut tenir donc les deux pôles que nous propose ici Jésus. Dieu est à la fois notre Père, nous sommes du même genre que lui, et Dieu est celui qui est au ciel, le transcendant, infiniment différent de nous, existant d'une façon unique en son genre comme source de tout ce qui existe de vivant. La tension entre ces deux pôles est utile, nous pouvons ainsi à la fois oser entrer en contact avec Dieu sans crainte, comme un bébé peut appeler sa maman sans douter une seconde de son infinie tendresse pour lui et qu'elle veille sur lui à chaque seconde. Mais il est bon aussi de ne pas oublier que Dieu est Dieu et qu'en le réduisant à quelque chose de trop simple, de trop familier, il y a le risque, non pas de le fâcher bien sûr, mais d'en faire une chose qui ne pourra plus être source de vie et de mouvement pour nous. Car Dieu, par définition, est l'inconnaissable, source de l'inattendu, source d'une création sans cesse nouvelle et donc forcément surprenante. Il est une personne à la fois familière et étrangère. Mais dans cette prière, Jésus ne nous dit pas d'appeler Dieu « Père » ou « Mon Père », mais il nous apprend à dire « Notre Père ». Bien que cette prière soit ici, comme nous le précise Jésus bien clairement, la prière d'une personne qui s'est retirée dans la solitude de sa propre chambre. Et pourtant, Jésus nous propose de le considérer, de le chercher comme Dieu abinou, c'est-à-dire Père de nous tous. En priant Dieu seul à seul, comme nous l'apprend Jésus, et en le reconnaissant comme Père, il y a bien des chances, je crois, que, comme le dit Jésus, nous prenions vraiment conscience que les autres humains sont nos frères et sœurs, tous sans condition, puisque nous avons le même Père. L'auteur du psaume 121 fait la même expérience, sentant l'aide de Dieu, une aide imméritée, sans condition. Il se tourne alors vers son prochain quasiment dans le même souffle, vous pourrez relire ce psaume, et il dit à son prochain, « Ce Dieu-là qui me fait avancer aujourd'hui, il t'aidera toi aussi, je le sais, je le sens, et je veux te le dire à toi. L'Éternel te gardera pour toujours, sans condition. » Et donc Dieu est Père de nous tous ensemble. Dieu nous donne la vie, il est le Père de chaque individu. Il est aussi le Père du « nous », c'est-à-dire le Père de l'humanité en tant que corps, un ensemble où chaque individu, dans son unicité, s'articule de façon miraculeuse avec l'ensemble des autres. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour créer cette véritable humanité. Cette humanité en chacun d'entre nous individuellement, mais aussi cette humanité qui va pouvoir s'entendre et travailler ensemble. Une humanité qui souffre quand un seul de ses membres souffre et qui se réjouit du bonheur des autres, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, chapitre que nous connaissons bien. Avec cette théologie, en deux mots seulement que Jésus nous propose, il met, je crois bien, notre existence tout entière en perspective. Dieu est notre Père, il y a donc du divin en nous. Dieu est celui qui est dans les cieux, nous ne sommes donc pas Dieu, et il a encore à nous apporter. Et puis les autres aussi sont enfants de Dieu, en eux aussi il y a quelque chose de divin, et ce n'est pas contre eux, mais avec eux que nous sommes avec Dieu. Alors là encore, je crois qu'il est bon de tenir un équilibre entre chacun de ces trois termes, en ne méprisant ni la merveille que nous sommes individuellement, ni cette merveille indicible qu'est Dieu, ni cette merveille qu'est notre frère, chacun de nos frères et sœurs à nos côtés. Alors nous savons comme il est tentant de se prendre soi-même comme le nombril du monde, ramenant tout à soi, ou désespéré dès que la vie ne ressemble pas exactement à ce que nous voudrions qu'elle soit. Eh bien, prier Dieu comme un Père qui nous aime et qui est au-dessus de nous, c'est une vraie libération par rapport à cela. C'est même plus, c'est une naissance. Nous savons comme il est tentant aussi de vivre dans le seul monde des idées où tout est pur et sans bassesse. Eh bien, prier Dieu comme étant le Père de Jésus-Christ nous renvoie à ce monde que Dieu aime et qui a besoin de personnes comme Jésus-Christ pour tenter de faire avancer les choses en annonçant et en soignant les gens qu'il rencontre, en touchant la lèpre des lépreux, en annonçant l'Évangile aux brigands comme aux gens bien comme il faut, aux trop religieux et à ceux qui ne sont pas assez religieux. Nous savons enfin comme il est tentant de penser que l'humanité pourrait s'en sortir par son seul génie, par sa seule solidarité. Ah, que cet orgueil a été source de folie, même avec la meilleure intention du monde, comme nous faisons des erreurs dramatiques en croyant bien faire. Eh bien, en priant Dieu comme Père, dans les cieux, nous découvrons cette autre dimension de la vie, du mouvement et de l'être, une dimension qui nous met enfin debout, les pieds sur terre, la tête au ciel, avec Dieu, et puis peut-être les mains entre les deux, pour servir nos frères et sœurs, pour saisir la main qu'ils nous tendent aussi, pour nous secourir. Que Dieu nous donne ainsi la vie. Amen.